Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafomba.
Dialogue national inclusif, quel bilan? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Sekou Niamé Bachili, RPM majorité, Cheikh Oumar Diallo, ADP Maliba opposition, Dr Ali Tunkara, sociologue et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo.
Le grand dialogue.
Alors, le dialogue national inclusif a été placé sous le signe de la vérité, de la sincérité et de la convivialité. Alors, je pose la première question à vous, Sekou Niamé, vous qui avez été un des rapporteurs justement au cours des activités. Est-ce que la vérité a été effectivement dite au cours de ce dialogue?
Bon. La vérité, oui, effectivement. Il s'agissait pour chacun des participants ou des Maliens de se retrouver autour d'une table, discuter grands mots qui ont en tout cas touché notre pays depuis 3 décennies. Ce n'est pas seulement 2012. Il est important de le signaler. Ce dialogue a débuté au niveau des communes, la phase décentralisée, après les cercles et les régions. Et c'était la réunion au niveau national qui avait été ouverte par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République. Le 14. Du 14 au 22, il y avait les Maliens venus de tous les horizons qui ont en tout cas montré leur attachement au pays, leur amour, et qui ont entre eux décidé de discuter et de parler de tous les problèmes parce qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Tous les sujets ont été débattus, ont été mis sur la table, débattus par les participants. Okay. Donc pour dire. Ce dialogue, il le fallait. Et les Maliens ont dit la vérité, rien que la vérité, souvent qui vise même les premiers responsables du pays. Mais la vérité a été dite.
Merci, merci beaucoup. Alors, Cheikh Oumar Diallo, je rappelle que vous êtes de ADP Maliba. Est-ce que de votre côté, vous estimez que la vérité a été dite? Est-ce que le dialogue a été sincère entre les Maliens?
Ben, vous savez, c'est clair qu'avant même d'aller au dialogue, nous avions un certain nombre de réserves quant au format de ce dialogue-là. Nous y sommes tout de même allés parce que nous pensons qu'à chaque fois qu'il s'agit de parler du Mali et surtout de trouver des solutions pour amener la paix dans notre pays, comme le nom de notre parti l'indique, Alliance démocratique pour la paix, il est de notre devoir de contribuer à ce débat-là et d'aider ce cher Mali à se relever. Et je vous avouerai que dans les débats, les choses ont été vraiment franches, les choses ont été directes, les choses ont été sans aucune forme de protocole. Les gens ont dit ce qu'ils avaient sous le cœur. Les gens ont été dans une forme de débat qui leur a permis d'extérioriser toutes les frustrations, voire même les colères qu'ils pouvaient avoir lors du débat national. Et je crois qu'à notre niveau, en tout cas, nous ne pouvons en aucun cas dire que quelque chose a été mis de côté. Comme l'a indiqué Sekou Niamé Bachili, le débat a commencé depuis la phase communale pour remonter jusqu'au niveau national. Au départ, l'organisation de la phase nationale, il était indiqué que uniquement les présidents de partis politiques allaient animer cette phase-là. Dieu merci, notre préoccupation qui visait à élargir le nombre des délégués au niveau national a été entendue et nous sommes venus, nous étions 5 par exemple au niveau de l'ADP Maliba et franchement nous estimons que le débat a été franc, direct.
Merci, M. Diallo. Alors, nous sommes également avec Dr Ali Tunkara. Bonsoir, Dr Ali Tunkara.
Bonsoir.
Alors, sur ce plateau, les deux intervenants sont vraiment unanimes que la vérité a été dite au cours du dialogue et que le dialogue a été vraiment sincère. Alors, à l'analyse, qu'est-ce qui ressort, justement?
Donc, clairement, c'est vrai que, comme M. Diallo et M. Bachil l'ont bien évoqué, ça a été un dialogue incontestablement franc. Surtout sans réserve, les différents acteurs qui ont pris la parole ont dit tout ce qu'ils pensaient du Mali, ont aussi proposé tout ce qu'ils voient comme solution. concrètement, Interdialogue, il faut quand même le rappeler, ça a été dit par un des intervenants. Il a à la fois questionné les terroirs, les centres urbains, même, on oublie souvent de le rappeler, une bonne partie de la diaspora malienne également a pris part à ce dialogue. Je pense que l'inclusivité du dialogue, elle est sans équivoque. Quand on parle d'inclusivité, il ne s'agit pas de donner la parole à 18 millions de Maliens, mais je pense que à partir des Maliens qui ont déjà pris la parole, je pense que on peut se permettre d'extrapoler qu'aujourd'hui, les Maliens ont tenu ce dialogue de manière tout à fait remarquable, les Maliens ont bien animé ce dialogue tout à fait, de manière tout à fait intéressante, on peut même qualifier ce dialogue de citoyen. Maintenant, concrètement, quand on regarde les différents échanges qui ont eu lieu autour de ce dialogue, ils peuvent être résumés en quelques points. Il y a notamment un nombre important d'acteurs sont revenus sur l'importance d'une refonte totale de la gouvernance. Un nombre important des Maliens.
Oui, docteur, on va revenir par rapport au fond. Voilà, on sait que tous les partis politiques de l'opposition n'ont pas participé justement à ce dialogue. ADP Maliba fait partie des partis qui ont participé justement à ce dialogue, avec des réserves notamment. Alors, quelles sont ces réserves-là?
Bien, notre première des inquiétudes portait sur l'engagement des plus hautes autorités du pays à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations et des résolutions qui sortiraient du dialogue national. Quand nous y allions, je crois qu'il y avait encore un petit flou autour de cette question-là. Je suis heureux de voir que le président de la République, lors de la clôture, a pris l'engagement solennel de faire tout ce qui était en son pouvoir pour mettre en œuvre les différentes recommandations. Et en tant que parti politique visant à ce que le pays sorte de cette crise, je crois qu'aujourd'hui, ce sera notre rôle à présent de veiller à ce que cet engagement soit respecté et également que les recommandations et résolutions soient rapidement mises en œuvre. Au-delà de la question de l'engagement des plus hautes autorités à mettre en œuvre les résolutions et recommandations du dialogue, il y avait également la question de la durée de ce dialogue, notamment aux phases communales et aux phases nationales, puisque nous pensions que la durée du dialogue, notamment au niveau communal, n'était pas à même de permettre à ce qu'on puisse traiter en profondeur les questions. Je crois qu'au niveau communal, il y a eu toutes les tendances qui ont reconnu que les 2 jours étaient un peu trop courts. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a rattrapé ce retard-là au niveau de la phase nationale, avec un nombre quasi incalculable de recommandations qui sont sorties de ce débat.
Merci. Alors, avant d'aborder l'aspect bilan du dialogue national inclusif proprement dit, alors je pose cette question à M. Niamé. Alors, on sait que vous avez été un des rapporteurs justement au cours des activités. Il y a une mutation conceptuelle. Au début du processus, on parlait du dialogue politique national. Et après, on s'est retrouvé avec le dialogue national inclusif. Pourquoi cette mutation conceptuelle?
Oui, d'abord, je tiens à remercier la formation politique ADP Maliba pour leur participation. Parce que pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Souvent, on peut participer avec réserve, mais il faut quand même participer. Et c'est à l'air actif. Maintenant, par rapport au nom du dialogue, parce qu'au tout début, il faut reconnaître que ce dialogue-là est prévu par l'accord politique de gouvernance, en son chapitre 2, article 5 jusqu'aux articles 8. Et ce dialogue est venu dans un climat de méfiance entre les différents partis politiques. Juste après les élections présidentielles de 2018, il y avait une crise de confiance. D'aucuns ne faisaient plus confiance à d'autres, et surtout les formations politiques de l'opposition. Quand on parle de l'opposition aussi, il y a tendance à ce niveau. Parce que l'opposition, il y a l'opposition politique qui est là, qui est représentée par les cabinets du chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé. Juste après ces élections, on a vu beaucoup de manifestations dans les rues, souvent protestant contre les résultats du scrutin, et allant même souvent à ne pas reconnaître la légitimité du président de la République. Avec les temps, les choses se sont apaisées un peu. Et c'est dans tous ces contextes, et après les attaques qui ont eu lieu au centre du pays, des villages dévastés, on peut le dire comme ça, il y a eu la nécessité pour le président de la République d'appeler toutes les formations politiques, de les amener sur une table et à les engager vers la nécessité d'une sortie des crises. D'où l'accord politique de gouvernance avec la nomination du Premier ministre Dr. Boubou Cissé. En ce moment, le dialogue, on a dit, la crise était politique. Il faut le reconnaître. Donc il fallait aller vers un dialogue politique inclusif. Le dialogue politique inclusif, mais lors des réunions préparatoires, et lors de la rencontre de validation des termes de référence, il y a d'autres sensibilités qui étaient présentes lors de ces rencontres-là et qui ont demandé à sortir du dialogue politique inclusif pour aller vers un dialogue national inclusif. Mais au début, le concept de dialogue politique n'était pas compris par tout le monde. Mais la société civile, majoritairement, a dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans les mots politiques. Ça les gênait. Donc pour eux, il fallait aussi changer ces mots-là. Et une partie aussi de la classe politique de l'opposition a voulu aussi qu'on change les mots politiques par national. Même si je dois reconnaître que ceux-mêmes qui ont demandé à ce qu'on laisse les politiques là et qu'on prenne les nationales, eux-mêmes, ils ont un peu attisé sur l'aspect politique. Avec beaucoup revenir. De réticences à ne pas participer à ce dialogue, ils ont prouvé aujourd'hui que le dialogue était politique et non national.
Okay. Merci M. Bachelet pour cette clarification. Alors, Dr Ali Tunkara, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce dialogue national a été réellement inclusif si on sait qu'une partie importante de l'opposition n'a pas participé?
Alors, c'est important. C'est vrai que lorsqu'on parle de la non participation de l'opposition ou de la partie de l'opposition incarnée par le président Cissé, naturellement, je pense qu'une telle non-participation ne peut aucunement remettre en cause ce dialogue dit national inclusif. Mais fondamentalement, vous reconnaîtrez avec moi que les préoccupations qui sont les leurs, notamment l'opposition qu'on pourrait la qualifier de radicale, sont entre autres les questions sécuritaires, l'employabilité de la jeunesse, des questions relatives à la gouvernance. Je pense que tous ces points, sans exception, ont été clairement débattus entre les acteurs qui ont déjà pris part à ce dialogue national inclusif. Mais c'est vrai que c'est cette partie quand même de l'opposition qui est même à l'origine d'une telle demande d'organiser ce dialogue national inclusif. Mais je pense que sa non-participation ne pourrait pas handicaper la qualité du dialogue, si seulement si les différentes résolutions, on va certainement en parler, les différentes recommandations qui ont été formulées ça et là, si celles-ci sont réellement mises en application, j'ai la ferme conviction que le président Cissé et ses lieutenants vont se reconnaître dans ces différentes recommandations. Je reconnais qu'aujourd'hui, Cissé souhaiterait que l'armée soit déployée à Kidal. Je reconnais qu'aujourd'hui, M. Cissé souhaiterait que les élections à venir soient transparentes et crédibles, sans qu'il y ait une quelconque influence du pouvoir en place. Voilà, donc ce sont des préoccupations, entre autres, je pense, qui ont été déjà prises en compte, même si l'opposition radicale n'a pas pris part à ce dialogue. Effectivement, les Maliens qui l'ont pris part l'ont clairement, effectivement, incarné de manière tout à fait, à mon avis, satisfaisante. Ce n'est pas pour rien que l'imam Tiko, en ces termes, disait que même si l'opposition incarnée par M. Cissé n'est pas présente, mais il pense que les différents propos tenus le concerneront également. Donc, voilà. Que, non pas parce qu'une partie de l'opposition n'a pas pris part à un dialogue national que la crédibilité est mise en cause.
Ok, merci, Dr Ali Tunkara. Alors, c'est vrai que cette partie de l'opposition en question n'a pas participé au dialogue. Et cependant, il s'est prononcé quand même sur les antennes de Studio Tamani. Alors, nous allons écouter Nuhum Togo, il est le porte-parole du chef de file de l'opposition.
pour nous, les quatre résolutions, ça se résume en deux. Premièrement, d'aller vers la révision constitutionnelle. On s'attendait à ça. Et deuxième aspect de la chose, l'application des accords signés. Le problème, c'est qu'on va vers la destruction de ce pays, parce qu'aujourd'hui, en appliquant ces résolutions dans un pays, dans un contexte où le pays, l'État ne maîtrise pas les deux tiers du territoire national, on va aller vers une élection. Et on sait aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour que les Maliens s'accordent sur la révision constitutionnelle. Alors, donc, on va vers la destruction de notre pays. Nous n'allons pas accepter d'aller vers une révision constitutionnelle. On se battrait donc, pour mettre fin à cette vision donc, d'aller vers une révision constitutionnelle dans les jours à venir.
Alors, M. Diallo, vous venez d'écouter justement et M. Togo par rapport au dialogue national inclusif. Il estime qu'on va vers la destruction du pays avec ces résolutions-là. Ah, et quelle est votre lecture? Comment voyez-vous ces...
Je connais très bien mon cher aîné Noum. Je comprends qu'effectivement, il emploie des termes très forts pour justifier l'absence de l'opposition incarné par Smaïla Cissé, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir raison garder. Nous-mêmes, nous sommes allés au dialogue avec un certain nombre de positions de principe très claires sur lesquelles nous avons débattu en toute franchise avec tout le monde et nous avons constaté que l'écrasante majorité des gens qui étaient présents lors de ce dialogue-là partageaient ces positions de principe avec nous. Aujourd'hui, les problèmes du Mali, on ne peut pas les réinventer. Ils sont connus, ils sont compris. La question de la révision constitutionnelle, nous aussi sur ce sujet-là, premièrement, nous l'avons dit et ça a été compris et accepté par les participants. La révision constitutionnelle ne peut pas être enclenchée automatiquement comme ça. D'abord parce que l'Assemblée nationale qui est censée adopter en premier ressort le projet de constitution n'est pas une assemblée aujourd'hui que nous reconnaissons comme légitime. Donc faire adopter une révision constitutionnelle avec une telle assemblée, c'est amener le pays vers une instabilité chronique. Donc la révision constitutionnelle ne peut pas se faire, selon notre avis, avant le renouvellement de l'Assemblée nationale. Et au-delà de cela, le principe a été posé sur la question de la sécurisation du territoire pour permettre à ce que cette révision se tienne. Aujourd'hui, personne...
Donc vous estimez que le président, le chef de file de l'opposition aurait dû participer à ce dialogue avec ses réserves?
Je suis absolument catégorique sur cette question-là. Je crois que c'est un aspect essentiel qui aurait permis justement de montrer que l'opposition a des idées constructives et voir avec les autres participants quelle est la concordance de ces idées avec l'avis de la majorité. Nous, en tout cas, nous ne nous sommes jamais sentis utilisés, pris en position de faire valoir dans ce dialogue-là. Nous avons imposé un certain nombre d'idées qui sont passées avec acclamation dans la salle. Donc aujourd'hui, nous estimons que voilà, il faut accepter de reconnaître que c'était, selon moi, une erreur politique de ne pas participer à ce dialogue.
Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, M. Bachili, comment voyez-vous ces propos de M. Togo, la destruction du pays avec ces résolutions issues du dialogue national inclusif?
Je retiens la dernière phrase de Cheikh Oumar. C'est une erreur politique, il faut le reconnaître. De nos jours, il faut reconnaître aussi que la position du porte-parole du chef de file de l'opposition, si réellement c'est la position de son mentor, est caduque. Caduque dans ce sens où, pour la première fois de l'histoire depuis le début de la crise, on a eu un créneau qui permet aux Maliens de s'exprimer, toute sensibilité confondue. Et c'était l'occasion pour moi, pour les chefs de file de l'opposition, les différents partis de l'opposition républicaine, de rejoindre ces créneaux-là pour faire passer leur message. On ne peut pas dire toutes ces sensibilités qui étaient présentes au dialogue. On ne peut pas reprocher à tout cela, en tout cas, la destruction ou la division, comme c'est ses propres mots, du pays. Le Haut Conseil islamique du Mali a participé au dialogue. Il avait les représentants là-bas. Et ils ne vont jamais aller assister ou participer à la division du Mali. L'opposition, la COFOP, l'ADP Maliba et d'autres formations politiques de l'opposition étaient présents aussi au dialogue. Et aussi, ils ne vont pas accompagner la majorité vers la destruction du pays. Il faut qu'à un certain moment, on arrive à peser les mots.
Merci. Merci beaucoup, M. Bachili. Alors, docteur Ali Tunkara, les propos du porte-parole du chef de file de l'opposition sont caduques. Hein. Ces qualificatifs viennent justement de la majorité présidentielle. Alors, est-ce que cette absence du chef de file de l'opposition pourrait avoir des conséquences sur la qualité du dialogue?
Non, je ne pense pas fondamentalement, mais c'est vrai que M. Bachili aussi doit comprendre la non-participation de cette branche de l'opposition incarnée par M. Soussou. Quand elle se réfère quand même à la conférence internationale qui s'est tenue en 2017, effectivement, laquelle conférence a été quand même aussi couronnée par des recommandations, par des résolutions tout à fait intéressantes, voire pragmatiques, comme les télé-résolutions ont été sérieusement mises dans les couloirs. Donc, je vous dis que l'opposition incarnée par M. Soussou est réticente à prendre part à ce dialogue. Je pense que l'hypothèse reste quand même plausible au regard de ce qu'on a vécu. Mais concrètement, du point de vue numérique, reconnaissons quand même. M. Soussou lui-même, si vous l'avez su lors du congrès du parti, il a quand même modéré un peu le langage. Je comprends que M. Nounou agisse un peu dans l'émotionnel, mais je pense que M. Soussou lui-même reconnaît que les différents propos tenus lors de ce dialogue national et inclusif sont aussi de l'air. Je pense que toute la pertinence de ces propos tenus résulterait à l'usage qu'on ferait de ces propos tenus. Je pense que c'est doit être aujourd'hui le rôle de l'opposition, le rôle de la société civile, de veiller à ce que, de manière rigoureuse, ces différentes recommandations, ces différentes résolutions soient une sorte de feu de route pour le quinquennat du président du Bambou.
Merci beaucoup, M. Tunkara. Alors, dans son allocution de clôture, le président de la République a dit ceci, je cite, « Ma main reste tendue. » M. Diallo, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose encore au président de la République? Autrement dit, est-ce que la balle n'est-elle pas dans le camp de l'opposition incarnée par Soumaïla Cissé?
Moi, je crois que le débat se situe ailleurs. Même cette intervention du président de la République, pour moi, ce n'est pas le cœur de ce débat-là. Ce qui est le cœur de ce débat, c'est ce qui est ressorti du dialogue national inclusif. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Je pense qu'il faut essayer de sortir des positions de personnes et voir concrètement ce qui est ressorti du dialogue et comment est-ce qu'on peut rapidement veiller à ce que ce soit mis en œuvre. S'il y a des choses qui sont dans ce dialogue national, qui sont ressorties et qui sont totalement mauvaises, qu'on nous les dise, qu'on nous les montre et qu'on travaille à ce que ce soit corrigé si c'est le cas, qu'on pose le débat. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler, c'est que c'est vrai qu'à la conférence d'entente nationale, il y a eu un nombre incalculable de propositions qui sont restées dans le tiroir, mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'on avait théâtralisé cette conférence d'entente nationale avec une rentrée spectaculaire de l'opposition le dernier jour qui a fait oublier complètement qu'on était allé pour parler des problèmes du Mali. Aujourd'hui, moi, je pense qu'avec ce dialogue national et les résolutions que nous avons adoptées et les recommandations qui ont été également adoptées, il faut aller au fond, il faut regarder profondément. On s'est concentré que sur 4 résolutions. Il y a un nombre incalculable de recommandations qui sont dans le rapport final. Je demande aux gens de s'intéresser à cela. On a demandé une transformation profonde de ce pays à travers d'abord la relecture de la charte des partis politiques pour rationaliser le fonctionnement de ces partis, à travers la relecture de la loi électorale pour donner plus de dynamisme à notre démocratie. On a demandé également de revoir le financement public des partis politiques pour y poser des conditions de financement qui soit plus forte que simplement le fait d'avoir obtenu des élus. On a demandé à ce que les législatives soient organisées dans les bons délais. On a également demandé à ce qu'un organe unique soit mis en place pour organiser les élections. On est passé au niveau de la gouvernance jusqu'à exiger à ce que tout soit mis dans le rapport pour demander à ce que les infractions économiques et financières soient rendues imprescriptibles, de sorte à ce que même si vous avez commis une infraction aujourd'hui et que dans 50 ans, on le constate, vous pouvez être poursuivi et mis en prison. Il y a beaucoup de sujets.
À vous entendre parler, les 4 résolutions justement qui sont issues de ce dialogue ne résument pas l'ensemble des préoccupations des Maliens.
Exactement.
Alors, M. Bachili, quelle est votre réponse par rapport à ce que M. Diallo vient de dire?
Je dirais d'abord qu'on était dans l'obligation, en tout cas, de sortir avec des résolutions fortes. Ça, c'est obligé. Donc, avec une centaine de recommandations, il fallait quand même choisir les grandes lignes et les urgences.
Est-ce que toutes les recommandations se trouvent dans les 4 résolutions?
Aujourd'hui, quand c'est nous, Togo, dit que les 4 résolutions se résument en D, moi, je pense qu'il fait une grosse faute là. Pourquoi? parce qu'il a parlé de révision et il a parlé de l'accord de paix. Mais pourquoi il n'a pas parlé aussi des élections législatives? Pourquoi? Et pourquoi il n'a pas parlé du retour de l'administration des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national? Moi, je pense que c'était des recommandations fortes de l'opposition. Il aurait dû retenir aussi ces mots-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Et l'urgence aussi est de prendre en compte, on a dit, le rapport final est annexé. Chaque commission a un rapport. Et les trois rapports sont annexés au rapport final.
Oui, mais une partie de l'opposition qui a participé au dialogue n'est pas totalement satisfaite par rapport aux propositions, aux résolutions. Que comptez-vous faire désormais?
Moi, je
pour
pense
prendre en
que
compte les préoccupations de cette
j'ai,
frange
j'ai
de l'opposition.
J'ai bien dit que le dialogue est sorti de l'accord politique de gouvernance.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre, hein, on ne dit pas qu'on n'est pas satisfait de ce qui est sorti. On dit qu'au-delà des résolutions fortes qui fixent un cap sur certains sujets majeurs, il y a aussi des recommandations très intéressantes.
Voilà, c'est-à-dire que vous aurez voulu que ces recommandations-là soient prises en...
Non, elles sont prises en compte, elles sont dans le document. Et nous, d'ailleurs, ça va être l'un des principaux chevals de bataille que nous allons... avoir pour les mois et les semaines à venir, notamment sur les questions de jeunesse. Moi, je suis président de la jeunesse d'un parti politique et les propositions qui ont été faites pour améliorer tout ce qui concerne les questions de jeunesse, d'éducation, de culture et de sport sont des choses pour nous peuvent être très, très, très
donc
positives.
Donc vous êtes satisfait des quatre résolutions qui ont été prises?
Mais je crois qu'aujourd'hui, ces résolutions, politiquement, elles ne sont pas des résolutions qui mettent en danger ou mettent en péril notre pays. Contrairement à ce qui est dit, il n'y a aucune formulation dans ces résolutions qui laisse croire qu'on va diviser le Mali. Au contraire, on a demandé la relecture de l'accord. Ça, c'est une des résolutions. On a demandé à ce que les législatives se tiennent à temps. Ça, c'est une des résolutions. On a demandé également à ce que, la révision constitutionnelle se fasse de sorte à ce qu'elle n'entrave pas l'équilibre et la stabilité de notre pays. Ça, c'est une résolution. Personne ne peut dire que la révision de la Constitution n'est pas un sujet, est un sujet tabou. C'est quelque chose qui est là. Tous les présidents de la République en ont parlé. Là, à l'époque où nous-mêmes avons combattu en 2017 le projet de révision constitutionnelle, cela se fondait sur un certain nombre de principes très clairs. Le premier d'entre eux est que le projet avait été fait en quelque sorte sans impliquer, comme il le faut, l'ensemble de la société civile, l'ensemble des partis politiques. La résolution le dit, aucune révision constitutionnelle tant que tout le monde n'est pas impliqué dedans. Deuxième point sur lequel nous étions en désaccord en 2017 sur une quelconque révision, c'était le fait qu'elle se faisait avec des aspects qui pour nous étaient des aspects qui étaient très problématiques. On dit qu'aujourd'hui cette révision se fera, si elle doit se faire, elle se fera à minima et elle ne se fera pas avant le renouvellement de l'Assemblée nationale. Donc okay. Moi je pense que voilà, il faut savoir raison garder. Merci. Et puis essayer de construire.
Merci pour cette précision. Avant de donner la parole à
Ajouter, ce qu'il faut ajouter à ce qu'il vient de dire, c'est très simple. On a dit il y a quatre résolutions. Mais les recommandations aussi, il y a un plan d'action, un chronogramme d'exécution de ces recommandations-là et qui sont classées en court, moyen et long terme. Donc c'est très précis. Il y a un document spécial pour les plans d'action. Donc il faudra se référer aussi à ces documents pour savoir les recommandations fortes à quel moment de l'année 2020 ou les moyens termes de 2020 à 2023 ou les longs termes de 2020 à 2030, à quel moment chaque recommandation doit être réalisée.
Merci. Donc, merci pour ces précisions. Alors, docteur Ali Tunkara, vous avez certainement pris connaissance du contenu justement de ces différentes résolutions. Est-ce que la mise en œuvre de ces résolutions dans les délais prévus est réaliste? Est-ce que c'est possible justement?
Moi, je pense que restons quand même dans un optimisme prudent. Pour qui connaît le contexte malien, je pense qu'il est quand même hasardeux, voire simpliste, de saisir le contexte actuel du pays par l'absence des institutions ou par l'absence des idées ou des recommandations. Le problème fondamental du Mali, je pense qu'il se pose avec l'élite politique en réalité. Aujourd'hui, en toute objectivité, ce qui pourrait être un de mes reproches quant à ce dialogue national inclusif, le fait qu'on n'a pas sérieusement questionné l'homme malien. Je pense qu'aujourd'hui, toute la difficulté que trouve l'élite malienne en place C'est la non-exemplarité entre franchise. On a beau eu des résolutions, on a beau former des recommandations, les hommes en charge de mettre ces recommandations en pratique, quand ceux-ci ne sont pas orthodoxes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du peuple, je pense que ce n'est pas pour saboter ce qui a été fait, c'est un travail tout à fait remarquable, mais en toute objectivité, vous regardez nos différentes institutions relatives à la lutte contre la corruption. Vous regardez les différentes institutions relatives à l'organisation des élections. Vous allez vous rendre compte que ce sont comme des institutions qui sont bien ficelées, mais sauf qu'on n'arrive pas à les rendre opérationnelles par le simple fait que l'homme malien lui-même, il est problématique, par le simple fait que ces institutions sont confiées à des femmes et des hommes, effectivement, qui eux-mêmes se sentent supras. Je pense que le gros problème avec le président Ivan Boré, qui était son entourage, il résultait effectivement dans la non-exemplarité, malheureusement. Parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui sont capables de faire ces recommandations une réalité. Mais concrètement, ces hommes aujourd'hui qui peuvent les mettre en application, me paraîtraient un peu quand même loin des décisions. Donc je pense qu'en toute objectivité, au-delà de l'efficacité, au-delà de la pertinence des recommandations formulées ça et là, j'ai le fort doute que celles-ci soient mises en application à court, à moyen ou à long terme, par le simple fait que, dans le contexte malien, ce ne sont pas les institutions qui manquent, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais plutôt les hommes en charge de ces idées.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ali Tunkara. Alors, monsieur Diallo, docteur Ali Tunkara est assez pessimiste par rapport à la mise en œuvre de ces résolutions et recommandations. Et vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à la mise en œuvre de ces résolutions?
Vous savez, nous, de tout temps, nous sommes toujours restés vigilants. Vigilants et vigilants. Nous resterons encore vigilants pour faire en sorte que le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations soit un comité qui soit un comité actif et dynamique. Nous resterons vigilants pour que le calendrier qui a été soumis à la sortie du dialogue soit mis en œuvre et nous resterons vigilants et déterminés en tant que parti politique pour mobiliser l'ensemble de nos forces internes afin qu'on veille à ce que ces recommandations soient mises en œuvre. Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, nous savons que ce sera la dernière cartouche qui aura été épuisée. Et donc, nous sommes convaincus qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels aujourd'hui, si on s'emploie rapidement à les mettre en œuvre, ça changera le visage du pays, ça redonnera espoir aux Maliens, ça leur laissera le sentiment que ces choses-là ont servi à quelque chose. Depuis notre création en 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'ADP Maliba a toujours été un parti de la vigilance et de l'action. Et c'est sous ce cadre-là que je place les choses, parce que comme l'a dit M. Tunkara, moi-même j'ai eu à le rappeler à la plénière du dialogue national, si ces recommandations premièrement ne sont pas assez fortes, elles ne serviront à rien du tout, ce sera du déjà vu, et si ces recommandations ne sont pas mises en œuvre, eh bien nous irons à la catastrophe la plus totale.
Merci,
donc
merci
vigilance
beaucoup.
Et action.
Merci Monsieur Diallo. Alors Monsieur Bachili, vous venez d'écouter Dr Ali Tunkara, il est assez pessimiste par rapport à la mise en application, à la mise en œuvre justement de ces résolutions-là. Alors quelles sont les garanties que vous offrez justement aux uns et aux autres?
Oui, bon, je pense qu'il est dans ses droits aussi, parce qu'il y a eu des précédents, on ne peut pas le nier. Donc il faut quand même reconnaître. Je me réfère d'abord à ce qu'il avait dit bien avant cette introduction, parce qu'il avait insisté sur la conférence d'entente nationale. Et moi, je pense que quelque part aussi, la communication gouvernementale a manqué. Il faut aussi le reconnaître. Sinon, moi, j'ai été surpris lors de ces dialogues dans notre commission que les artisans, ceux qui étaient là-bas pour représenter les artisans plutôt, eux-mêmes s'élèvent pour dire, nous, on avait demandé quelque chose lors de la conférence d'entente nationale qui a été réalisée. Et nous remercions le président de la République pour ça. Ça a été dit au dialogue. Donc ça prouve quoi? Quelque part aussi, la communication gouvernementale manque. Parce que si on s'était sur le minimum de réalisations qui ont été réalisées, finalement, les gens vont dire que rien n'a été fait. Alors, mais il faut reconnaître que quelque part aussi, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites comme prévu.
Alors, par rapport à la mise en œuvre,
par rapport à la mise en œuvre,
c'est quoi?
La garantie, c'est l'engagement, c'est la volonté politique du président de la République. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas en dire autant. Du moment où nous-mêmes, nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas membres du comité de suivi, on va se référer à ce que le président de la République... Et moi, je crois au président de la République parce qu'il est sincère dans ses dits. C'est un président qui a envie tout de suite que les choses aillent bien. Et il veut le faire avec tout le monde. Il a envie d'associer tout le monde. Dès le début, il a essayé d'associer tout le monde malgré lui-même. Mais on va s'en tenir à ce qu'il a dit lors et du discours de l'ouverture et de son discours de clôture. Il a insisté sur ces points-là. Les résolutions et recommandations seront réalisées. Donc on les souhaite ainsi pour une sortie de crise définitive.
Merci beaucoup, M. Bachir. Alors, certains observateurs estiment que les questions en lien avec l'ouverture des négociations avec certains groupes djihadistes comme Yagali ou encore Amadou Koufa n'ont pas été au cœur justement des résolutions, par exemple. Est-ce que vous estimez que, M. Diallo, ce sont des questions assez importantes qui auraient dû être aussi prises en compte par certaines résolutions, même si, au niveau des recommandations, on parle un peu de ces questions-là?
Ben, écoutez, vous savez, moi, je crois que cette question des discussions avec certains de ces chefs de groupes terroristes, on va dire, est un débat qui est là depuis plusieurs années. Et un débat qui se motive par le fait qu'on a un sentiment d'impuissance totale face à cette situation d'insécurité grandissante. Maintenant, il y a quelques points sur lesquels je crois que même s'il y a des discussions, il faut quand même avoir le courage de rester relativement ferme. La première des choses, c'est le caractère républicain, laïque, démocratique de notre pays, qui sont des conditions sine qua non. Et la deuxième des choses, c'est l'engagement à ce que les armes soient déposées. Si à partir de là, ces deux principes de base sont des principes acquis avant de discuter avec les intéressés, ben moi je ne vois pas de problème à discuter avec eux. Mais vous savez, la justice aussi doit prévaloir dans ce genre de sujet-là. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y aura une prime à ce genre d'action. Il faut vraiment que ce soit des sujets gérés avec toute la sensibilité que ça nécessite. Moi, je crois que la présence dans les recommandations, on va attendre de voir comment concrètement ceci va se mettre en œuvre. Mais bon, je n'ai pas grand espoir que les intéressés soient intéressés par un quelconque dialogue avec les autorités.
Merci, M. Diallo. Alors, M. Bachili, je rappelle que vous êtes de la majorité présidentielle. Est-ce que vous estimez que c'est une urgence aujourd'hui d'ouvrir le dialogue justement avec ces groupes djihadistes?
Bon, je ne dois pas dire le contraire, puisque le dialogue en a fait une urgence, parce que déjà, dans le chronogramme, c'est prévu en 2020. Mais pourquoi Yagali, Amadou Koufa et pourquoi pas les autres? C'est uniquement parce que les participants ont dû comprendre que c'est deux qui sont des extrémistes aujourd'hui. Et pour une stabilité au Mali, il faut passer par eux, non pas parce qu'ils sont terroristes, mais parce qu'aussi ils sont maliens. Parce que parmi ces groupes qui sévissent au nord de notre pays, il y en a qui les dirigent aussi, qui sont des nationaux, dont les participants ont jugé nécessaire de les rapprocher et d'entrer en contact, d'engager une négociation avec eux. Mais comment ça se passe? Parce que les dire lors d'un dialogue et dans... La faisabilité, c'est autre chose. Ce n'est pas un État démocratique, laïque, républicain qui va quand même, avec des fanfares, engager une négociation avec des présumés ou des terroristes. Ce n'est pas possible.
Merci.
Mais ça va se faire, mais peut-être d'une autre manière qui ne sera pas étalée au grand public.
Merci, M. Bachidi. Alors, Dr Ali Tunkara, un mot par rapport à l'ouverture des discussions justement avec les groupes djihadistes.
Non, je pense que c'est un souhait qui a pu être exprimé, comme ça a été rappelé par les Maliens. Mais ce qu'il faut aussi quand le rappeler, je pense que le groupe radicaux violent et même aujourd'hui sont aux abois. Une telle offre de dialogue pourrait être intéressante également à leur égard. Je pense qu'il faut quand même tenter le pari. Quand on sait que les États-Unis sont en train de parler avec les talibans, je ne vois pas en quoi, vu l'état déliquescent dans lequel se trouvent les armées africaines, notamment maliennes, il me paraît quand même aujourd'hui impérieux de déclencher un tel dialogue avec les groupes radicaux violents. Mais ce qui est important quand même de le rappeler par rapport à mon à mon pessimisme quant à la mise en place, à la mise effective de ces différentes résolutions. C'est vrai que le président lui-même a parlé d'un comité qui va veiller à ce que les différentes résolutions soient appliquées. Mais je vois déjà un blocage à ce niveau. Est-ce que ça va être le comité national d'organisation ou ça va être le triumvirat qui va s'occuper de ce volet? Je pense qu'à ce niveau également, quand on questionne un peu le couloir, il y a quand même des bruits qui sont importants au lieu d'analyser avec clarté.
Merci.
Mais
merci.
Fondamentalement, pour revenir au groupe radical violent, je pense qu'il est important, ça a été rappelé par Diallo, c'est vrai que ce n'est pas un dialogue où l'on va faire appel à tous les médias du monde, mais je pense qu'il est quand même urgent dans le contexte actuel au Mali de déclencher ce dialogue. On a des hommes et des femmes qui sont mieux outillés pour déclencher un tel processus. Mais dans le même temps, retournons quand même que le MLNA, qui est aujourd'hui sous la coupe de la CMA, tout ce qu'on reproche à ce groupe radical violent, je pense que le même reproche reste légitime. Quant aux questions de l'ENLA, je pense que dire qu'ils ont tué, ils ont violé, l'argumentaire me paraît difficilement soutenable, car on a aussi négocié avec des gens qui se sont attaqués au symbole de l'État, qui ont violé, qui ont tué, qui ont tout fait en termes d'atrocité, en termes d'animosité vis-à-vis de l'État central.
Alors, je pense que Merci Aliou Toumkara. On va vous revenir. Alors, M. Diallo, lors de votre intervention, justement, lors du dialogue national inclusif, vous avez mis l'accent sur un concept. Il s'agit de l'alternance générationnelle. C'est bien ça?
Tout à fait.
Alors, que voulez-vous dire par là?
Ben, je crois qu'aujourd'hui, il est important de préparer la nouvelle garde politique, sociale et économique. Cette jeunesse qui est là et qui ne demande qu'à pouvoir participer à la construction nationale. C'est pourquoi on a bataillé avec l'ensemble des jeunes délégués qui étaient présents sur le lieu du dialogue national pour obtenir l'inscription au rang des priorités à court terme immédiate, l'adoption d'une loi pour promouvoir l'accès des jeunes aux emplois électifs, et certains ont demandé nominatifs également. Donc ça a été retenu, accepté par les participants, et je crois qu'aujourd'hui c'est ce sur quoi il faut vraiment qu'on se concentre pour qu'on puisse changer le visage de la République. Aujourd'hui, s'il y a un très grand dédain à l'endroit de la chose politique, si les gens n'ont plus du tout confiance en la politique, c'est parce que c'est depuis trop longtemps les mêmes personnes qui sont au devant des choses. Et si on arrive à obtenir l'adoption très rapide de cette loi pour promouvoir l'accès des jeunes aux emplois électifs, on parviendra à changer le visage de l'Assemblée nationale d'ici le mois de mai.
Merci.
Beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de nouvelles têtes qui permettront de redonner un souffle et de redonner espoir aux populations quant au changement dans notre pays.
Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, M. Bachili, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance justement en la jeunesse malienne?
Mais bien sûr, pourquoi pas?
Oui, mais non, parce que ça pose débat. Il y a certains observateurs qui estiment qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne n'est pas, une grande partie de la jeunesse malienne n'est pas bien formée. Et n'est pas compétente. Voilà.
Oui, si aujourd'hui la jeunesse, une partie de la jeunesse, comme tu l'as dit, n'est pas bien formée, on doit reprocher ça à qui? Bien évidemment à eux. Et on a, le Mali a de la chance d'avoir au moins plus de la majorité de sa population qui est jeune. Et ça, c'est une ressource rare et qu'on doit se focaliser pour aller de l'avant. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai problème de changement des générations. Le changement générationnel au Mali, c'est très lent. Et ça urge actuellement de passer aussi la main. Mais de quelle manière? Moi, je me focaliserai un peu sur les fonctions nominatives, parce que les fonctions politiques, bon, ça c'est autre chose. Il y a des jeux d'intérêt, plein de batailles là-bas, comme mon camarade ne veut pas le nier. Nous qui sommes avec ces politiciens, la génération démocratique, nous savons comment ça se passe. Mais surtout les fonctions nominatives, il faut qu'on arrive à donner plus de sens à la jeunesse. Et c'est pourquoi, très généralement, quand je vois un jeune s'agripper sur une nomination politique, je me dis que quelque part, il ne sait pas de quoi il s'agit.
Rapidement,
nous voulons très bien faire carrière dans l'administration d'État et créer ces cadres-là. Au dialogue, ça a été une position défendue merci. Par mon camarade et nous l'avons soutenu sur ces points et on a eu gain
merci.
De cause.
Merci.
Et on a eu gain de cause.
Et groupes armés, ça marche ensemble oui. pour l'adoption du
c'est
loi.
Bien noté. Donc, c'est ce qui met fin justement à cette émission qui portait sur le bilan du dialogue national inclusif. Nous étions avec Sekouniame Bachili, il est du RPM, donc de la majorité présidentielle. Cheikh Omar Diallo, il est de ADP Maliba, opposition. Docteur Ali Tunkara, il est sociologue et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keita. À la mise en onde, Mamadou Ouattara. À la coordination, Mohamedou Touré. À la présentation, Ibrahima Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.